Extrait du chapitre 15, Paix et autres horreurs, de l'Empire de la Lune d'été, par S.C. Gwynn. En 1866, après la guerre de sécession, la démilitarisation du Sud devint une priorité dans la reconstruction du pays. Washington n'allait plus autoriser le Texas rebelle à lever une fois de plus sa propre armée. Quant au Congrès, qui croulait sous une dette de guerre colossale, il n'était pas disposé à financer des campagnes coûteuses contre un groupe de sauvages relativement restreint qui ne représentait aucune menace directe pour la nation. Les Comanches avaient été les premiers sur ces terres. À supposer que cet argument comptait, et les Anglo-Européens qui s'enfonçaient vers l'ouest étaient sans nul doute les envahisseurs. Pour qu'une paix durable pût être conclue avec les Comanches, il eût fallu que les Taïbos, les Blancs, stoppent l'avancée de leur civilisation au 98e méridien. Il aurait fallu qu'ils maintiennent leur colonie occidentale au-delà des Rocheuses et refusent de bâtir des lignes de chemin de fer transcontinentales ou de permettre aux pionniers de traverser les plaines par les pistes de Santa Fe ou de l'Oregon. Or, les défenseurs des Indiens n'auraient jamais refusé aux Américains blancs le droit fondamental de posséder pleinement leur continent. Ces exhortations angéliques à la paix, associées aux raids sauvages et ininterrompus des Comanches au Texas et dans le territoire indien, aboutirent à un traité, le dernier et le plus complet, que signèrent les Indiens des plaines du Sud. Les négociations eurent lieu en octobre 1867, sur un campement où les Kiowas célébraient traditionnellement leur danse du soleil, à 120 km environ au sud-ouest de l'actuel Wichita, dans le Kansas. L'endroit était appelé Medicine Lodge Creek. Des membres d'une commission de paix des États-Unis et des représentants des tribus Comanche, Cheyenne, Arapaho, Kiowa et Apache Kiowa y participèrent. Ce fut le dernier grand rassemblement d'Indiens libres dans l'Ouest américain. Un événement splendide, surréaliste, condamné d'avance, absurde et étrange, et certainement le plus pompeux jamais vu dans la région. 9 journaux envoyèrent un correspondant sur place. On estima à 4000 les participants indiens, dont des Comanches, qui installèrent une centaine de tipis. Le conseil s'ouvrit sur le partage rituel du calumet de la paix, puis, comme d'habitude, les commissaires entamèrent les discussions en adressant des réprimandes aux tribus assemblées. Ils rappelèrent aux Indiens qu'ils violaient honteusement leur traité en faisant la guerre aux Blancs. Ce que voulait le grand-père de Washington, expliquait John B. Henderson, président du comité des affaires indiennes, comme s'il s'adressait à des enfants, c'était accorder aux Indiens des terres éloignées des colonies blanches. On leur fournirait des outils et des semences. On leur apprendrait l'agriculture. Un charpentier leur montrerait comment bâtir des maisons. Des écoles verraient le jour pour qu'ils apprennent à lire. Par ailleurs, pendant 30 ans, le grand-père de Washington leur procurerait chaque année des vêtements et d'autres marchandises indispensables d'une valeur de 25 000 dollars. En contrepartie, les Indiens devaient cesser toute hostilité, résider sur les terres octroyées et promettre de ne pas faire obstacle aux routes, aux chemins de fer, aux forts ou à tout autre aménagement des Blancs. Les Indiens furent invités à exprimer leur point de vue, ce qu'ils désiraient ardemment. Mais les Indiens savaient mieux que quiconque qu'il était trop tard pour tout. Aucun Indien libre ne serait autorisé à parcourir quoi que ce soit comme plaine. Les Indiens ne pouvaient être repoussés ou déplacés vers l'ouest. C'était ce qui avait déjà été fait avec les Creeks, les Séminoles, les Delawares, les Iroquois et d'autres tribus de l'est. Les Indiens des plaines vivaient au cœur de la dernière frontière et leurs terres n'étaient pas simplement vouées à être parcourues par des trains et des chariots à destination de l'Ouest. C'était la Comancheria même que convoitaient les Blancs. Sherman, qui avait plus de sang sur les mains que les Indiens, ne pouvait le concevoir. Leur annonça qu'il devait abandonner les anciennes coutumes et apprendre à devenir fermier. Ils signèrent un document à leurs yeux complètement abstrait, basé sur des notions de propriété, de cartographie et de migration vers l'ouest, et sur le concept plus vaste de destinée manifeste. Autant d'idées qu'ils ne comprendraient jamais tout à fait. Les Indiens n'étaient absolument pas d'accord avec ce qu'on leur demandait. Ils n'en tireraient rien de bon, hormis la destruction et le déclin. Mais la plupart d'entre eux estimaient qu'il était préférable d'apaiser une fois de plus l'homme blanc par un accord, surtout assorti de présents, plutôt que de refuser et de laisser la voie libre à des bellicistes comme Sherman. Le 21 octobre 1867, des chefs de toutes les tribus apposèrent leur marque en bas du document, qu'ils ne pouvaient évidemment pas lire. Un bon tiers des bandes ne fut pas représenté au Conseil, essentiellement des Cotzotecas et des Quahadis, les deux groupes les plus éloignés qui campaient souvent ensemble dans le Llano Estacado. Les Cotzotecas avaient ratifié un traité en 1865, mais ne l'avaient jamais respecté. Les Quahadis n'avaient jamais rien signé et ne signeraient d'ailleurs jamais rien. La commission de paix américaine ne s'en soucia pas. On considéra que la tribu entière avait accepté l'accord. Le fait que les Comanches soient constitués de plusieurs bandes n'intéressait plus personne. Au sud de l'Arkansas, ils étaient autorisés à quitter la réserve pour chasser. Mais le traité exigeait qu'ils cessent de se battre et de suivre le bison, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus des Indiens des plaines. Ils devaient réorganiser entièrement leur structure sociale autour d'un certain nombre de valeurs et de principes encore en grande partie inconcevables à leurs yeux. Comment chez Kiowas était censé partager une réserve d'1 200 000 hectares dans le sud-ouest de l'actuel Oklahoma, le nord et l'est de la Red River et de sa fourche nord, le sud de la Ouachita et l'ouest du 98e méridien. Il s'agissait en réalité de très bonnes terres, propices à la chasse et à l'agriculture, et offrant de bonnes sources d'eau. En outre, elles se trouvaient sur le territoire Comanche traditionnel et comprenaient Medicine Bluffs et d'autres sites sacrés. Mais ce n'était qu'une minuscule portion de la Comancheria qui avait compté jusqu'à 80 millions d'hectares. Elle était également loin d'inclure les territoires de chasse ancestraux les plus giboyeux, les plaines à bisons du Texas. Quant aux Cheyennes et aux Arapahos, leur bande du sud uniquement, ils acceptèrent de vivre juste au nord de la réserve Comanche. Pour beaucoup de gens, le traité apparaissait comme une solution juste et raisonnable à un problème ancien et insoluble. Le projet central du traité de Medicine Lodge, qui était de transformer les Comanches et d'autres tribus de cavaliers, des chasseurs-cueilleurs nomades, en fermiers sédentaires, se révéla presque totalement futile. Quelques Penatecas, qui avaient rejoint la réserve depuis longtemps, tentèrent d'en adopter l'idée. Mais de manière générale, les Comanches refusaient d'entendre parler d'agriculture. Le 30 juin 1869, le nombre de Comanches sur la réserve était estimé à 916, mais aucun d'eux n'était autosuffisant. Tous vivaient dans des tipis et subsistaient en associant la chasse, la nourriture et les annuités accordées de manière irrégulière par le gouvernement et les pillages des colonies texanes et d'autres réserves indiennes. Beaucoup s'éloignèrent peu à peu des terres fédérales pour rejoindre des bandes hostiles du Llano Estacado. Un mode de fonctionnement se mit en place. En hiver, un certain nombre de Comanches venaient camper sur la réserve et réclamaient des bœufs, d'autres denrées alimentaires et des marchandises équivalentes aux annuités. Au printemps, ils regagnaient progressivement les plaines à bisons ou rejoignaient des groupes de pillards à destination de la frontière texane. La situation était confuse et particulièrement instable. Une seule certitude régnait. Malgré les efforts considérables du gouvernement, les Comanches étaient toujours des Comanches. Ils ne s'étaient toujours pas défaits de leurs vieilles habitudes. Il fallait agir. La première victime fut le Bureau des Affaires indiennes, tant détesté. En 1869, le Congrès le supprima et le remplaça par le Bureau indien, qui obtint rapidement ce qui fut considéré comme un habile compromis. Chaque agence indienne serait dirigée par des membres d'une communauté religieuse afin de minimiser les risques de corruption. Et tant mieux si les Indiens étaient convertis au christianisme. C'est ce qu'on appela la politique de paix de Grant. Contre toute attente, il revint aux Quakers, connus pour leur douceur et leur pacifisme, de surveiller les Comanches.